Décryptage. Marion Kazanov.
Parfois accompagné d'une guitare, toujours avec un micro, souvent recouvert de paillettes, comme ses tenues de scène, Taylor Swift rend visite à ses fans français. La chanteuse américaine débute une série de 4 concerts en France. Je dis chanteuse américaine, mais elle est bien plus. L'artiste pop influence la politique américaine, l'économie, la technologie, une communauté infinie appelée les Swifties. Elle se retrouve même au cœur de théories du complot. Alors pourquoi cette chanteuse est-elle si influente dans des sphères qui dépassent celles de la culture ? Ce soir, on décrypte l'effet Taylor Swift. Bonsoir Belkacem Balouli.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Rolling Stone, qui consacre d'ailleurs un hors-série à la chanteuse qui vient de sortir en kiosque. Avant de commencer cette émission, il faut bien sûr qu'on ait un aperçu de ce que propose la chanteuse. Petit medley des chansons de Taylor Swift parmi les plus populaires. Voilà, Belkacem Balouli, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut résumer donc le style musical de Taylor Swift ?
Alors au départ, c'était de la country pop, et depuis, elle a enlevé la partie country pour faire de la pure pop et s'inscrire dans une veine plus proche de la patronne du rayon qui n'est autre que Madonna.
On va écouter cet extrait.
J'aime sa manière d'écrire, sa musique, sa voix.
J'ai grandi avec elle. Il y a une chanson pour chaque expérience féminine.
Cette année, typiquement, j'ai eu deux moments où j'ai réécouté des vieilles chansons et je me dis, c'est totalement ma situation actuelle. Du coup, j'adore parce qu'elle a peut-être 300 chansons, donc il y a vraiment une chanson pour tout.
On est limite plus sur une amie qui nous écrit un message pour nous remonter le moral dans un moment où ça va pas. Et c'est ça que je trouve incroyable.
Women, we're not speaking.
Et voilà, on entend la passion de ces fans françaises, ces fans qu'on appelle les Swifties. Comment expliquer donc le succès mondial de Taylor Swift ? Pourquoi sa musique plaît-elle autant ? Et passionnément, on vient d'entendre cette jeune fille qui dit que c'est comme une amie qui écrit ce qu'elle ressent.
En fait, plus que sa musique, ce sont ses paroles qui marquent. Parce qu'elle a un vrai talent d'écriture. Alors au départ, c'était très Cher Journal, c'était journal intime. Et donc les jeunes filles se reconnaissaient évidemment dans les propos de Taylor Swift, dans ses chansons, puisque comme on l'a écouté, c'est plutôt entraînant. Et effectivement, ça raconte des tranches de vie dans lesquelles il est facile de s'identifier, et il est même évident de s'y identifier. C'est pour ça qu'elle répondait en fait à une demande de ses fans. Il faut aussi préciser que le public est essentiellement féminin, ultra majoritairement féminin, et extrêmement jeune. C'est-à-dire que les gens aux États-Unis qui l'ont découvert au début des années 2000, quand elle a débuté sa carrière, continuent de la suivre, puisque ses fans se reconnaissent encore dans ses textes, là, en particulier dans son dernier album, où là c'est beaucoup plus dur, où elle se met en situation, elle met des perspectives sociétales maintenant dans ses chansons, au lieu de parler que de sa vie amoureuse, sa vie personnelle, ses amis, etc. Elle introduit un style qui est plus proche des auteurs américains. C'est-à-dire qu'on est dans presque de la littérature américaine qui raconte un pays vu par les yeux d'une jeune femme d'aujourd'hui 34 ans.
Et alors, elle a mis du temps à plaire outre-Atlantique, notamment en France. Il y a plus de 10 ans, son premier zénith en France était loin d'être rempli. On avait même mis des bâches pour couvrir les endroits vides. Comment est-ce qu'elle a fait pour conquérir ce nouveau public ? Qu'est-ce qu'elle a changé ?
Alors, en France, c'est en plus, aussi bizarre que ça puisse paraître, la partie faible de l'Europe pour le marché de Taylor Swift. C'est-à-dire que quand on compare aux Anglais, où elle va faire 4 fois ou 5 fois Wembley,
oui.
on n'est plus dans les mêmes proportions. On est sur 4 fois 80 000, alors que Paris, c'est 4 fois 40 000. Enfin, c'est déjà énorme. Mmh. Plus après le stade à Lyon, au mois de juin. Mais déjà, elle parle anglais. Et on connaît la passion française pour les textes en anglais, c'est-à-dire qu'on va plus s'attarder sur la musique, mais on arrive quand même, parce que c'est quand même extrêmement bien produit, à comprendre le sens de la chanson. Sur certaines tournures de phrases, on voit dans quelle situation mentale, morale elle est, et on peut s'identifier à Taylor Swift par ce biais. Mais en France, c'est d'abord sa musique qui compte plus que ses textes.
Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'avant, elle était plutôt chanteuse country, comme vous le disiez, maintenant, elle a opéré vraiment un virage pop, je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Totalement.
La country plaît moins aux Français aussi, peut-être.
Alors, le public country français est quand même très, 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 très réduit. On se souvient il y a une grosse vingtaine d'années, il y avait une star qui s'appelait Shania Twain, qui avait rempli Bercy une fois, et qu'on n'a plus revu, puisque après elle est repartie aux États-Unis, mais les musiciens américains dans le domaine de la country évitent la France. C'est factuel. Je suis un grand fan de musique country et je suis très triste de ne pas voir tout un tas d'artistes. Ça va de Darius Rucker, qui est actuellement en train de tourner partout en Europe, sauf en France, et de bien d'autres artistes qui ne font plus d'étape française parce qu'il n'y a pas de public.
Et vous êtes donc l'un des rares fans français de,
bah,
de country.
On est entre 50 et 100 à chaque concert. Quoi. Oui. Il y a eu des festivals qui ramenaient un peu de gens, mais du coup, donc Taylor Swift est passée à la trappe, alors qu'elle avait un vrai succès déjà en Italie, en Espagne, qui ne parle pas plus anglais qu'en France, hein. Mais qui sont beaucoup plus ouverts, puisque en France, la country a une image désastreuse de plus qu'en Santiago, avec des chapeaux qui sont un peu réac. Donc appelons un chat, alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque en plus la country a changé.
Et alors ces Swifties, qu'ils soient français ou américains, c'est donc les fans de Taylor Swift, ils ne reculent devant rien. Eux, en moyenne, ils dépensent 1100 euros par concert, ça dépend un petit peu des études. Donc ils payent la place, l'hôtel, le transport, le séjour, il y a aussi les goodies, les objets dérivés, donc... je ne sais pas, une tasse, un t-shirt à l'effigie de Taylor Swift.
50 euros pièce, oui.
Voilà, donc à tel point qu'on parle de Swiftonomics, le choc économique provoqué par ces tournées. Est-ce que ça a un si gros impact que ça sur les économies locales ?
Mais oui, j'ai même été contacté par un voyagiste il y a quelques semaines, me signalant qu'en observant juste leur courbe de vente sur Paris et Lyon, ils ont vu une augmentation des réservations de trains, d'avions, d'hôtels à Paris. Et à Lyon, juste pendant la période où Taylor Swift est là. Il faut savoir que, d'après le voyagiste, il y a un tiers des gens qui ne sont pas de Paris. Alors, il y a effectivement les gens des régions, mais il y a beaucoup de gens qui traversent l'Atlantique ou qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie. Bref, les Swifties se déplacent. Et ce qui est une grosse tendance, d'ailleurs, c'est depuis le Covid, où les gens n'hésitent pas à prendre l'avion, traverser l'Atlantique pour aller voir un concert et donc engager une certaine somme quand même, parce que c'est pas neutre. Entre un hôtel, il y en a 100, 150 balles. Le temps de manger, prendre le t-shirt, le mug et rentrer, ça fait un paquet d'argent. Et il faut savoir qu'elle a 34 ans, elle est déjà milliardaire. Et ça fait beaucoup parler. Et elle est surtout extrêmement populaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce qui avait marqué dès le départ, c'est que c'est son côté « girl next door ». Qui est quand même le truc le plus populaire aux États-Unis. Tout le monde s'intéresse à sa jolie voisine blonde. C'est Hugh Hefner en a fait un business énorme.
Oui, avec Playboy.
Mais là, on est dans une autre forme de girl next door. Et à partir de là, il y a identification, on en parlait tout à l'heure. Et surtout, ça a commencé à générer une popularité, des tournées de plus en plus grosses, l'appétit féroce des labels. On sait qu'elle a réenregistré ses disques. Quand même, comme Chuck Berry.
Alors justement, elle est devenue milliardaire, notamment parce qu'elle a réenregistré ses disques.
Elle s'est réappropriée son travail.
C'est une femme d'affaires. Comment elle a fait précisément pour... précisons qu'elle est devenue milliardaire seulement grâce aux revenus tirés de ses chansons. Comment elle a fait ? Il y a une bataille avec notamment les plateformes de streaming.
Alors, il y a eu la bataille avec le label, avec TikTok, avec Universal Group, etc., etc. Il y a eu tout un tas il y a eu plus d'avocats que de musique, comme souvent, hélas, dans le rock'n'roll. Et elle ne s'est absolument pas laissée faire. Elle s'est réappropriée son œuvre, elle les a réenregistrées, elle les a revendues une nouvelle fois, soit sous forme de streaming, soit sous forme de disque. Et là, en plus, elle vient de sortir un album, elle a juste explosé tous les records. Il faut savoir que c'est la première à battre les Beatles. Le record tenait depuis 1969. On est 55 ans, 56 ans après. Et c'est juste incroyable de savoir qu'une artiste peut vendre plus qu'à l'époque bénie où on vendait les disques par camion.
Mmh. Oui, avec aujourd'hui l'époque du streaming.
Voilà, et ça, c'est incroyable. Et alors, c'est purement incroyable.
Et Taylor Swift s'exprimait brièvement là-dessus, il y a 2 ans, sur le fait qu'elle a réenregistré sa musique.
La plupart de vos artistes préférés ne possèdent pas leur œuvre. Il y a quelques années, j'ai fait comprendre que je voulais racheter ma propre musique. On ne m'a pas donné cette opportunité. Elle a été vendue à quelqu'un d'autre. Alors je me suis dit, c'est moi qui ai créé cette musique en premier. Je n'ai qu'à le refaire. Donc, c'est ce qu'on fait.
Donc voilà, vous le disiez, elle a réenregistré ses CD et les fans fidèles ont suivi, ils ont racheté ses nouveaux CD. Est-ce que c'est courant dans l'industrie musicale ? Est-ce que c'est déjà arrivé comme ça qu'un...
C'est très 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 rare. Ça, c'est arrivé, je le disais tout à l'heure, à Chuck Berry, puisqu'il avait été purement et simplement spolié de ses droits par le patron du label, par Leonard Chess, quand il avait enregistré ses plus grands succès, qui sont quand même les plus grands standards du rock'n'roll. Mais ça n'arrive pas souvent. Après, il y a des batailles juridiques sur les successeurs entre les groupes où il y en a un ou deux de morts, où tu n'as pas le droit d'utiliser le nom, où tu n'as pas le droit d'utiliser telle chanson, etc., etc. Mais de réenregistrer ces disques, c'est quand même extrêmement rare. Mmh. Parce que ça implique tout un périple industriel. Mais elle avait l'argent.
Et puis donc, aussi la fanbase, comme on dit.
Et surtout une fanbase monumentale prête à la suivre partout. On en parlait tout à l'heure avec les gens qui traversent l'Atlantique ou qui viennent d'Asie juste pour la voir. Elle cartonne plus que tous les groupes coréens réunis, ce qui est quand même assez spectaculaire. Quand on a fait un hors-série qui est arrivé en kiosque là, il y a quelques jours, on s'est aperçu de ça, de cette masse de musique. Elle a une discographie incroyable. On parle de 250, 300 titres originaux. Donc quand elle va commencer à faire en plus derrière du back catalogue, quand elle ne voudra pas tourner parce que c'est épuisant même pour elle.
C'est quoi le back catalogue ?
Le back catalogue, c'est ses anciens disques. Mm. C'est-à-dire que les remasteriser, sortir les chansons inédites avec d'autres orchestrations, avec d'autres textes, ce que font les Bob Dylan, les Young, Springsteen chaque année. Là, c'est la première fois que ça va arriver avec une chanteuse. C'est-à-dire que Madonna n'a pas sorti son back catalogue, même si elle a encore montré sa popularité. Elle a rappelé qui commandait pas plus tard que la semaine dernière
Rio,
avec un million et demi de personnes sur la plage de Rio. Je ne sais pas si Taylor Swift arrivera à faire ce record-là, mais elle est partie pour qu'on parle d'elle pour les 4 ou 5 prochaines années, mais sans problème.
Elle va continuer à
parce monter. Que ses fans seront là, et si les disques sont aussi qualitatifs que ce qu'elle vient de sortir... Je ne vois pas pourquoi ça s'effondrerait.
Et alors, elle a aussi un impact sur la politique. Taylor Swift peut-elle faire gagner Joe Biden ? Certains médias se posent cette question. Beaucoup estiment qu'elle a un poids politique, sans forcément le vouloir. En tout cas, elle ne s'est pas fait des amis chez les Républicains. My team is losing, battered and bruising. I see the high fives between the bad guys. Leave with my head hung. You are the only one. Et donc, cette chanson, c'est Miss Americana and the Heartbreak Prince, qui a été écrite juste après la victoire de Donald Trump en 2016, où elle dit notamment « Je n'ai plus d'espoir, mon équipe perd, les méchants se tapent dans les mains », une sorte de message subliminal, mais on sait que ça s'adresse, que Trump est visé. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'engagement politique de Taylor Swift ?
Alors, c'était un engagement très léger qui ne s'est pas vu jusqu'en 2020. En revanche, depuis la rentrée, enfin depuis le mois de septembre, on ne parle plus que de ça, puisqu'elle est devenue l'ennemi à abattre pour les Républicains, les Trumpistes, et à longueur de journal de télévisé sur Fox News, ils l'injurient, ou ils lui disent « mais non, montre que tu es une vraie Américaine, blonde, yeux bleus, etc. » Enfin, les standards racistes habituels et stupides de Fox News. En rappelant qu'elle a un devoir pour la nation parce que Joe Biden, c'est le communisme aux portes de l'Amérique. Bref, on en est dans un délire conspirationniste, comme quoi c'est pas elle, elle est manipulée. Alors,
le
truc le plus grotesque, c'est son fiancé, qui est juste un sportif de très haut niveau. Ils ont gagné le Super Bowl. Et comme par hasard, sur Fox News, on a dit non, ils ont intrigué, ça a comploté derrière pour que l'équipe de Kansas City gagne. On en est là chez les Républicains. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de récit, ils n'ont plus d'histoire à raconter, ils n'ont aucun bilan à défendre, si ce n'est un désastre électoral.
Mais pourtant, ce n'est pas l'artiste qui prend le plus la parole, elle ne s'exprime pas tant que ça.
Non, mais elle s'est exprimée. Au niveau local, il faut rappeler, elle est originaire de Pennsylvanie, donc du nord-est des États-Unis, mais elle est installée à Nashville, qui est quand même la patrie Midwest par excellence, donc c'est le pays on va dire des cow-boys et de la musique country, où elle s'est opposée violemment aux sénateurs et représentants locaux républicains parce qu'elle est contre tout leur programme anti-LGBT, anti-école, machin, etc. Enfin, tout le créationnisme qui sévit là-bas entre le Tennessee et le Kentucky. Il faut savoir quand même qu'on va très très loin dans le délire conspi et ultra-réactionnaire. Et donc, elle s'est opposée à ça. Elle l'a dit ouvertement. Évidemment, du coup, Fox ne pouvait pas louper l'affaire et en a fait des camions entiers. Mais fondamentalement, elle a un vrai rôle social puisqu'elle appelle à voter.
Donc est-ce qu'elle a un vrai impact sur le vote ou sur l'électorat du moins ?
Quand elle en a parlé, même si ça a duré le temps d'un buzz de 48 heures, 72 heures, comme tous les buzz aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut arriver un truc énorme, trois jours après on l'a oublié, mais ça a provoqué quand même un début de commencement de ruée vers les listes électorales et les inscriptions, puisque les fans se sont sentis concernés, puisque Taylor a dit qu'il faut aller voter, s'intéresser à la vie politique de son pays, on va aller voter. Mais elle n'avait pas dit « allez vous inscrire pour voter Biden », elle a juste dit « allez vous inscrire ». Et dans ce « allez vous inscrire », vu son passif, qui n'est pas si lourd que ça au niveau discours politique, les républicains l'ont attaqué directement.
Donc ça, c'était pour l'impact politique. Je voudrais qu'on écoute aussi cet extrait qui a désormais 15 ans. Taylor Swift reçoit en 2009 un prix aux MTV Music Awards.
Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Et donc là, pendant son discours, le rappeur Kanye West va l'interrompre.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
Donc là, il dit que le prix, en fait, selon lui, aurait dû revenir à Beyoncé. On en a parlé longtemps après dans les médias américains. Ce clash a duré même plusieurs années. Kanye West en parle même dans une chanson, sa chanson Famous. For all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why I made that bitch famous. Goddamn. I made that bitch famous. Voilà, je vais pas traduire précisément ce qu'il dit, mais en gros,
c'est
pour
pas
lui,
très classe.
Selon lui, il a contribué à rendre Taylor Swift célèbre. Et qu'est-ce qu'elle représente avec dans l'industrie de la musique? Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est plus respectée qu'avant, du moins? Comment on la voit?
Ah bah, à partir du moment où on vend 1 million d'albums, on donne du vous.
Mais est-ce
qu'en
2009,
c'était le cas ? On lui tapote plus sur l'épaule. C'est... Non, elle est ultra respectée. Limite, il baisse la tête. Ouais.
Même Kanye West aujourd'hui, pour vous penser ?
Non, il respecte.
il respecte aujourd'hui.
Il est obligé. Il est obligé parce qu'il faut reconnaître que c'est pas que du hasard. C'est pas que de la chance. Il y a un vrai travail de fond, d'écriture, de son, de production, de travail de l'image. Parce que il faut savoir que Taylor Swift est sur tous les fronts. Évidemment, les réseaux sociaux, les TikTok, etc., où c'est extrêmement bien pensé, scientifique. Elle a une vraie grosse équipe. C'est de l'industrie lourde. C'est pas le chanteur dans sa chambre qui dit « Tiens, j'ai enregistré ça, va voir ma vidéo sur YouTube. » On est dans du très, très lourd. On est sur du milliard de dollars à chaque fois qu'on bouge un bras. Et donc, à partir de là, on a un poids.
Et pour terminer cette émission, Belkacem Balouli, dans une biographie, la journaliste Morgane Giuliani la qualifie de plus grande pop star du siècle. Est-ce que c'est votre avis ?
Non.
Qu'est-ce que vous diriez alors ?
Pop star du 21e siècle ?
Pop star du 21e siècle seulement, mais elle a pas... pour vous, qui serait alors
pour
la
moi,
pop star du...
Très honnêtement, c'est Lady Gaga.
Lady Gaga ? Mais aujourd'hui, sa
carrière... Et Beyoncé.
Beyoncé toujours.
À égalité.
Même
parce
si
que leur présence, on parle beaucoup de Taylor Swift, mais Beyoncé n'est pas loin derrière non plus. Hein. Et son coup d'éclat de sortir un album country, c'est du pur génie. Parce qu'en plus, l'album est bon, elle a été saluée par les blancs country, c'est-à-dire Willie Nelson et Dolly Parton, qui participent à l'album. Elles disent 2-3 phrases, mais c'est extrêmement symbolique. Et surtout, elle a réussi à rappeler que il y a un héritage commun musical dans toute l'Amérique, ce noir et blanche, c'est la musique américaine. Elle n'a pas de couleur.
Et en tout cas, merci beaucoup, Belkacem Balouli. Je remarque que vous avez cité, qu'on cite que des femmes pour les pop stars, pour parler de ces pop stars. Merci beaucoup, Belkacem Balouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone, d'avoir été avec nous ce soir dans Décryptage, dans un instant, l'actu africaine. Ce samedi sur